de la musique et de la politique dans les studios.
Synchronique, cyclotimique, canonique,
canonique,
synchronique,
cyclotimique, canonique.
Ok.
www.radiopanique.org.
Bah bonjour. en tout cas, c'est chouette d'avoir pu accepter cette interview. Moi, j'avais lu votre bouquin en fait quand il était sorti, donc ça fait déjà un petit temps.
Ouais.
Pour commencer, est-ce que déjà simplement vous pouvez vous présenter?
Alors, je suis Marc Pernoud, je suis sociologue à l'Université de Lausanne depuis 6 ans maintenant. J'étais à Toulouse auparavant.
Et ce livre, Les Musicos, donc, il date de 2007. Hein.
Ce livre date de 2007, il a été publié en 2007, effectivement. C'est le livre que j'ai tiré de ma thèse que j'ai soutenue en 2005.
Et qu'est-ce qui amène un ethnologue à travailler sur ces questions? Donc je rappelle, ça s'appelle Les Musicos, enquête sur des musiciens ordinaires.
Qu'est-ce qui amène un ethnologue à travailler sur ces questions? C'est ce qui amène un musicien à faire une thèse d'ethnologie, en fait. Voilà. Moi, j'étais musicien, je le suis toujours, même si c'est plus mon métier, mais en tout cas, ça a été mon métier en même temps que je faisais mes études en sciences sociales. Et puis, finalement, le seul moyen que j'ai trouvé de continuer à faire des études relativement longues, un master, puis une thèse, c'était de travailler sur ce qu'était le quotidien de mon métier de musicien. Et d'en faire une véritable recherche ethnographique, d'étudier ces réalités sociales de l'intérieur, en quelque sorte, ce qui est une posture relativement originale. J'ai pas mal de collègues qui travaillent sur la musique, les pratiques musicales, le métier de musicien, etc. Mais en général, c'est toujours depuis une position extérieure, comme on peut le comprendre de la part d'universitaires. Voilà, mais il se trouve que j'avais un pied de chaque côté, si on peut dire, et donc j'ai vraiment mis à profit cette position d'insider pour réaliser cette enquête ethnographique.
Oui, c'est vrai que ça se sent très fort dans le bouquin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait pas mal étonné déjà à l'époque, cette implication en fait personnelle, puisque en fait vous racontez aussi comment ça se passe pour vous en tant que musicien, sur les différentes étapes de votre bouquin dont on parlera après. Et ça m'avait pas mal étonné, parce qu'en fait, comme vous dites, souvent l'ethnologue est un peu externe.
Ouais.
Et là vous êtes complètement impliqué. Et après, vous avez aussi travaillé avec un panel de personnes. Comment ça s'est passé, ça, au niveau des choix?
J'ai pas constitué un panel au sens statistique du terme, puisque c'est pas du tout une enquête statistique ou quantitative, comme on dit. C'est vraiment une enquête de terrain. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme la plupart des musiciens, ce que j'appelle les musiciens ordinaires, qui sont des gens qui sont ni riches ni célèbres, et finalement, pour gagner sa vie, il faut multiplier les situations d'emploi. Donc on joue dans plein de groupes et de collectifs différents, plein de styles musicaux différents, tout simplement pour accumuler les engagements professionnels. Et donc, à ce moment-là, les intérêts du chercheur ont rejoint les intérêts du musicien, puisque aussi bien je multipliais les situations d'emploi pour gagner ma vie dans des espaces sociaux et esthétiques très très divers, et puis en même temps je multipliais les terrains d'enquête, les terrains d'observation, donc le fait d'avoir en parallèle un quartet de bop moderne, d'avoir un trio de jazz manouche, de faire des remplacements dans des orchestres de variété ou des choses comme ça, c'est à la fois une nécessité à laquelle sont soumis la plupart des musiciens, et puis en même temps c'était vraiment un intérêt scientifique pour moi de diversifier les terrains d'enquête et de rencontrer des gens aussi différents que possible.
Et ces musicos dont vous parlez, en fait c'est peut-être la majorité des musiciens existants en général. Vous disiez, c'est pas des gens célèbres, donc il y a une différence entre cette espèce de starification et puis ces musiciens ordinaires.
Oui, effectivement. La starification, elle touche par définition qu'une petite minorité des musiciens, ceux qui parviennent vraiment à s'élever sur la pyramide professionnelle, comme on dit. L'espace professionnel dans ce milieu-là, il a vraiment une forme de pyramide, c'est-à-dire que tout en haut, il n'y a pas grand monde, mais tout en bas, c'est là qu'il y a le plus de monde, effectivement. Donc tous ce que j'appelle ces musiciens ordinaires, encore une fois, qui essayent juste de gagner leur vie en jouant de la musique, Ça représente, alors j'ai pas de données chiffrées évidemment pour la France en tout cas, mais ça représente l'écrasante majorité de la population des musiciens. Après, ils sont pas toujours visibles. Une bonne partie d'entre eux ont accès au régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Vous savez comment ça marche un peu en France, il y a ce régime spécifique. Mais c'est pas le cas de tous. Et puis il y en a certains qui entrent et qui sortent du régime d'indemnisation d'une année à l'autre. Donc on a affaire à parfois ce que je peux appeler des intermittents par intermittence. Et donc voilà, des individus dont l'activité n'est pas toujours enregistrée par la statistique officielle. Les prestations en public donnent pas toujours lieu à des déclarations de travail, par exemple. Donc il y a toute une réalité finalement qui est assez ignorée par l'enquête sociologique qui partirait des données statistiques officielles, encore une fois. Et moi, je suis vraiment parti du terrain, vraiment parti de mon expérience, de musiciens qui pouvaient jouer, je sais pas, dans les années 98, 99, 2000, 2001, je jouais à peu près 100 fois par an en public, mais je voyais que c'était à plus de 80% des prestations payées au noir, pour le dire simplement.
Oui, c'est une réalité de terrain.
C'est une réalité de terrain, tout simplement. Donc, tous ces concerts, toutes ces prestations, elles n'apparaissent pas quand on part d'un décompte statistique officiel des rémunérations des musiciens, des déclarations de concerts, etc. Donc voilà, l'idée, c'était de montrer un petit peu cette, alors à la fois la base de la pyramide, et puis peut-être une image encore plus juste, ce serait la partie immergée de l'iceberg. Eh ben, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus de... Vous savez que c'est sous l'eau que l'iceberg est le plus gros, hein, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Et là, effectivement, c'est toute cette activité musicale qui échappe au radar officiel, si on peut dire en quelque sorte, qui est sous l'eau ou sous la terre, underground, hein. En plus, souvent, ça se joue dans des caves, etc., et qui ne donne pas lieu à des déclarations de revenus, de travail, à des contrats, mais qui, en même temps, me semblait tout à fait significative et tout à fait importante, parce que ce sont ces activités, si on sort ce soir, que ce soit à Lausanne où je suis, ou bien à Bruxelles, ou bien à Paris, ou à Toulouse, on va voir dans les bars des groupes qui jouent, et ça représente des milliers de gens qui vont voir et entendre de la musique live. Ça représente donc une activité culturelle non négligeable, une activité économique, parce que les gens vont dans les bars pour écouter ces groupes, et puis ils vont boire des coups, ils vont dépenser de l'argent. Enfin voilà, c'est une activité culturelle, une activité économique qui me semblait assez importante à étudier, mais qui encore une fois, bien souvent, passe très largement en dessous des radars.
Oui, ça devient presque une économie parallèle alors.
Ouais, en tout cas, il y a des porosités. On est vraiment dans une zone de porosité entre économie parallèle et économie officielle.
Dans le livre, pour reprendre un petit peu ça, il y a plusieurs étapes différentes. Je vais les citer comme ça. Donc c'est s'approprier, répéter, jouer, enregistrer, tourner, durer. Ce sont les étapes qu'on ne peut pas passer, en fait.
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on peut qualifier en sciences sociales d'une approche séquentielle. C'est-à-dire que on peut repérer effectivement une série de passage un peu obligé, comme ça, une série d'étapes dans la pratique musicale quand elle se professionnalise. Bien sûr, il faut commencer par s'incorporer. Le sous-titre du premier chapitre qui s'appelle comme ça, c'est s'incorporer l'écoute, l'instrument et le reste, si je me souviens bien. Je n'ai pas le livre sous les yeux.
L'écoute, passage à l'acte, transmission et construction d'un habitus.
Ouais, voilà. Donc on va non seulement s'approprier la dextérité nécessaire à jouer d'un instrument, etc., mais on va aussi s'approprier des façons de penser, des façons de parler, des façons d'être. C'est tout ça, devenir un musicien aussi. Hein. C'est pas seulement apprendre à jouer d'un instrument. C'est apprendre un métier. C'est intégrer un groupe social, un groupe socio-professionnel. Donc c'est toute une socialisation professionnelle. Donc, effectivement, il y a tout ça. Et puis, ben, répéter, bien sûr, c'est nécessaire. Jouer dans le sens jouer en public. La troisième partie, et la quatrième partie enregistrée, ce qui est toujours ben, un passage plus ou moins obligé si on veut jouer un petit peu en public. Donc aujourd'hui, c'est probablement plus par YouTube que ça passe, ou en tout cas des diffusions via Internet. Et à l'époque où je travaillais, ça c'était à peine balbutiant. Hein. Mm-hmm. Enfin, la nécessité d'enregistrer des maquettes pour décrocher des engagements, elle était déjà bien présente. Et donc ensuite, tourner, enregistrer pour pouvoir tourner dans le sens de multiplier les concerts. Donc soit tourner loin, soit tourner près, puisqu'il y a aussi toute une façon de faire le métier, faire la carrière, dans sa région, ce que j'appelle
une scène locale,
etc. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Et puis la dernière partie du livre, ça s'appelle durée, puisque c'est effectivement bien le problème principal, hein, pour nombre de musiciens ordinaires. Le fait de connaître des situations de travail assez précaires, le fait d'avoir une situation financière pas facile, ben tout ça, c'est des choses qui sont relativement acceptables quand on a 25 ans, puis ça devient plus difficile quand on en a 35, et souvent assez impossible quand on en a 45. Donc durer dans le métier, c'est un véritable défi. Durer à quel prix, dans quelles conditions, etc. Donc ça, c'est aussi... voilà, c'est, si on peut dire, la dernière étape, hein, c'est pérenniser sa professionnalisation, pérenniser son ancrage dans le métier, question de la survie professionnelle.
Mmh. Et alors, dans le fait de s'approprier, si je me souviens bien, dans le livre, et surtout au niveau de la transmission, donc ça commence par, si je me souviens bien, il y avait deux choses différentes. Il y avait une transmission, par exemple, par les parents ou un tiers, qui amenait en fait à avoir envie de découvrir la pratique musicale, et les débutants, je crois, où là en fait il y a un côté complètement autodidacte, et on commence peut-être à mimer certaines stars ou des choses comme ça, puis après on s'approprie vraiment l'utilisation de l'instrument, on se construit son propre style, et on arrive ensuite peut-être à écrire ses propres morceaux, à composer soi-même.
Oui, effectivement. Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Déjà les deux. Le fait de venir à la pratique via des passeurs, grands frères, copains, parents qui vont prêter un instrument, montrer un peu comment on pose les doigts sur la guitare ou des choses comme ça, ça n'est pas incompatible avec le fait d'aller vers la pratique musicale aussi comme auditeur, le fait que dans des groupes de sociabilité adolescente, on va chanter tel solo de guitare, ou on va... chanter les paroles de tel ou tel morceau, ou taper sur un comptoir de bar ou je sais pas quoi pendant les tel break de batterie ou des choses comme ça. C'est déjà, je pense, ce que j'appelle une forme de réception active dans laquelle on apprend aussi à musicaliser son corps, même si c'est pas, on n'apprend pas à proprement parler de jouer d'un instrument, mais quelque part on fait entrer la musique dans son corps, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est pas incompatible avec le fait, en parallèle, d'avoir une... Eh bien, de venir à la pratique par un grand frère, un passeur ou quelque chose comme ça. C'est là où, comme je le dis, le comptoir de bar va se transformer en batterie, ou la raquette de tennis va se transformer en véritable guitare. Mais ça, c'est voilà, ça c'est un parcours qu'on trouve de manière assez classique, hein, chez les jeunes musiciens. Après, quelle était la fin de votre question? Excusez-moi.
Je sais plus moi-même. Mais du coup, je vais passer à autre chose. Carrément. En tout cas, voilà, au niveau de la pratique, comme ça, donc il y a cette transmission, vous venez de l'expliquer un peu. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, c'était le langage qui se formait derrière, qui se construisait et qui s'inventait. On commence à jouer comme ça d'un instrument, puis peut-être qu'on monte un groupe parfois. Et mais on n'a pas la connaissance de la lecture ou l'écriture musicale.
Ouais.
Et donc on va s'inventer des codes. Et ça, oui, je trouvais ça assez passionnant.
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai traité plus en détail dans un chapitre d'ouvrage collectif qui a été publié l'année dernière, je crois. Mais oui, effectivement, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est la façon dont le savoir musical circule et la façon dont les musiciens discutent entre eux quand ils sont en train de faire de la musique. Ou pas seulement discutent, mais la façon dont les musiciens communiquent entre eux quand ils sont en train de faire de la musique. Donc on a vraiment les différents registres, en commençant par un registre musicologique, mais qui est souvent mal maîtrisé, ou dont la maîtrise est souvent très inégale d'un membre du groupe à l'autre. Mm-hmm. Donc si vous avez le guitariste qui explique au batteur que non, c'est sur le deuxième temps de la troisième mesure, ben c'est pas forcément évident que l'autre comprenne, suivant le type d'apprentissage qu'il a pu avoir. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce registre musicologique savant, mais c'est pas très très savant, mais enfin qui demande un minimum de connaissances en théorie musicale, qui est donc difficile à manier parce qu'encore une fois, rarement partagé de la même manière par tous les membres du groupe. Et donc bien souvent, on va passer par d'autres formes de communication, à commencer par le mimétisme, à commencer par soit un mimétisme strictement auditif où les musiciens vont se chanter finalement, hein, vont chanter à l'autre ce qu'il doit jouer, ou vont voilà, vraiment s'exprimer en chantant les différentes parties musicales. Mais ça, c'est des choses qu'on trouve aussi d'ailleurs, je sais pas, ça, il arrive régulièrement que des chefs d'orchestre expliquent telle ou telle chose à tel pupitre de cuivre ou de corde en leur chantant aussi un passage. Hein. Donc ça, c'est mm-hmm. un autre mode de communication de la musique, si on peut dire, par le mimétisme strictement auditif en chantant ce que l'autre doit jouer. Et puis il y a aussi le mimétisme visuel qui est assez important, en particulier dans l'exercice des instruments à cordes, que l'on joue de la guitare ou de la basse électrique. Ben bien souvent, votre voisin de répétition, le guitariste, peut montrer au bassiste tout simplement à quel endroit il faut poser son doigt sur le manche pour avoir la bonne note, quoi. Mm-hmm. Donc ça peut être aussi, dans les cas de groupes de débutants en particulier, on passe souvent par ce type de mimétisme qui est plus visuel qu'auditif finalement.
Je me souviens avoir lu aussi un passage où vous expliquiez que parfois aussi on peut se mettre des espèces de tableaux dans cette petite salle de répète et où
ouais.
Ben là on va aussi inventer un langage écrit finalement.
Oui, effectivement, ouais, ça c'est des choses qui peuvent arriver. À partir du moment où un certain nombre de gens se retrouvent assez régulièrement pendant suffisamment longtemps, il est assez normal qu'ils créent leur propre langage, ou en tout cas leurs propres indices, leur propre manière de communiquer, puisqu'il va se développer des références communes, et donc finalement c'est avec en jouant sur ces références communes qu'à l'intérieur du groupe on va parvenir à communiquer le plus efficacement. Mais c'est probablement un type de langage ou des modes de communication qui serait incompréhensible à quelqu'un qui n'appartient pas au groupe et qui arrive comme ça. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose qui est assez commun aux situations d'interaction, à tout groupe restreint. Il n'est pas du tout impossible que vous trouviez la même chose, je sais pas, chez un garagiste, si vous avez 6 personnes qui travaillent ensemble depuis 10 ans tous les jours. Ils auront probablement aussi développé leur private joke ou leur langage à eux. Voilà, ça c'est des phénomènes sociaux qui sont assez classiques.
Ouais, on fait pareil à la radio, je pense.
Ah bah, j'imagine. J'imagine.
We
Et alors, vous parliez aussi donc du métier, en fait, ouais. Tout à l'heure. C'est quoi un métier ici ?
C'est quoi un métier ici ?
Est-ce que dans le cas de ces musiciens ordinaires, en fait, à quel moment on se dit c'est mon métier ?
Ben justement, c'est une vraie question sociologique et on s'aperçoit que ça peut être assez variable d'un pays à l'autre. Mm-hmm. Ça, j'en pourrais peut-être en reparler, mais en tout cas, ce qui m'a intéressé en France, quand j'ai fait cette dizaine d'années d'enquête en France, c'est de voir déjà que la dichotomie entre amateur d'un côté et professionnel de l'autre, elle fait pas vraiment sens telle quelle, en tout cas à l'intérieur du milieu. J'ai jamais entendu un musicien demander à un autre « est-ce que tu es amateur ou est-ce que tu es professionnel ?» Mmh. Ça, je ne l'ai jamais entendu. En revanche, de manière à peu près systématique, j'entendais un musicien demander à un autre « est-ce que tu fais que ça ou est-ce que tu fais quelque chose à côté ?»
D'accord.
Et donc là, il m'a semblé qu'il y avait un élément tout à fait intéressant, là encore, en partant du terrain, en partant des catégories cognitives et discursives qui font sens pour les acteurs, je me suis dit, ben tiens, avec cette histoire de ne faire que ça, on tient quelque chose de véritablement intéressant parce que ça fait sens pour eux. Maintenant, toute la question est de savoir jusqu'où le ça est extensible. Mm-hmm. Par exemple, gagner sa vie en donnant des cours de guitare, est-ce que c'est être un musicien ? Vous voyez, est-ce que l'activité pédagogique fait partie ou non du métier de musicien ? Et ça c'est une vraie question. On a pu voir, là, si, je ne sais pas si je peux en dire quelques mots, mais
ça fait
2 ans et demi que je dirige une enquête assez importante en Suisse. Mm-hmm. Et on commence à voir que en France, j'avais pu montrer que pour se sentir musicien, pour se penser musicien, on va quand même essayer de multiplier au maximum les engagements dans les situations de jeu en public, donc à la fois pour accumuler les dates et essayer d'ouvrir ses droits à l'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Mmh. Un premier élément matériel, et puis un élément plus symbolique, mais c'est aussi que finalement à chaque fois qu'on joue en public, on réaffirme son identité de musicien. On la réaffirme en public, on est applaudi, on est reconnu comme musicien. C'est comme ça que les choses se sédimentent et se forgent. Hein. D'accord ? Mmh. Donc ça c'est une situation qui est assez claire en France. Maintenant en Suisse, on a trouvé quelque chose d'assez différent. Les musiciens ordinaires en Suisse, si on peut dire, jouent beaucoup moins que leurs homologues français. Déjà tout simplement parce que le marché intérieur est beaucoup plus réduit.
D'accord.
La Suisse, c'est un petit pays, coupé en deux en plus avec le côté germanophone et le côté francophone. Difficile pour les francophones d'aller jouer de l'autre côté du pays. Donc vraiment, la scène, le marché local de la scène est trop petit pour faire vivre les gens. En revanche, il y a en Suisse un taux de pratique musicale dans l'ensemble de la population qui est très important. Il y a beaucoup de musiciens, alors strictement amateurs, hein, qui ne jouent jamais en public en Suisse, et qui en même temps ont un pouvoir d'achat assez élevé. Comme on sait, hein, le pouvoir d'achat en Suisse est beaucoup plus élevé que dans les pays alentours.
Ouais.
Et tout ça fait un vivier d'élèves tout à fait important pour ces musiciens qui, pour une grande partie d'entre eux, alors on n'a pas encore les données précises, mais c'est en tout cas, a priori, plus de la moitié de ces musiciens ordinaires en Suisse qui gagnent principalement leur vie en enseignant, qui ont une activité scénique tout à fait régulière, mais beaucoup moins importante que ce que pourraient connaître les Français.
Ouais, donc ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, de savoir, alors est-ce qu'on est musicien parce qu'on enseigne ?
Et voilà, exactement. Oui. Et donc finalement, on s'aperçoit que le métier de musicien, pour répondre directement à votre question, un métier, le grand sociologue américain des années 50, Everett Hughes, disait « un métier, c'est un faisceau de tâches ». C'est différentes tâches qu'à un moment de l'histoire et à un endroit de l'espace qui sont regroupées sous le nom d'un métier. Et on s'aperçoit que le faisceau de tâches qui constitue le métier de musicien en France et en Suisse, par exemple, n'est pas exactement le même. Si vous avez 25 ans et que vous sortez d'une école professionnelle de musique en France et que immédiatement vous vous mettez à gagner, disons, les 3/4 de vos revenus en enseignant, vous n'êtes pas vraiment un musicien, vous êtes un prof de musique.
Mm-hmm.
Alors qu'en Suisse, c'est tout à fait normal. Le fait de gagner la grande majorité de ses revenus en enseignant ne vient pas du tout contredire une identité au travail de musicien, une identité professionnelle de musicien. L'enseignement fait partie du faisceau de tâches légitime qui construit le métier de musicien en Suisse.
Et donc les paradigmes sociaux sont différents comme ça au niveau de la culture et de la lecture de ce que pourrait être le métier.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Ça ne veut pas dire la même chose, ce simple mot de musicien et la signification sociale qui est derrière n'est pas la même d'un côté et de l'autre de la frontière franco-suisse.
Et par rapport aussi au fait tout à l'heure que vous disiez que jamais vous n'aviez entendu entre musiciens, est-ce que tu es professionnel ou est-ce que tu es amateur, en gros ce serait ça. Par contre, au niveau institutionnel, on l'entend beaucoup, cette dichotomie animateur, amateur versus professionnel. À quel moment et pour qui elle doit faire sens ?
Les réalités sociales auxquelles on s'intéresse en tant que sociologue, en tout cas auxquelles moi je m'intéresse dans mes travaux, elles sont à un niveau de granularité assez fin qui est pas forcément évident à appréhender pour la politique, tout simplement. Les acteurs politiques, pour mener la politique publique, que ce soit politique culturelle ou politique économique dans le sens de l'emploi, dans le spectacle vivant par exemple, ben, ils ont souvent besoin de catégories bien étanches et facilement repérables. Donc c'est vrai que, en tout cas en France, la professionnalisation du secteur, ou bien les pratiques amateurs, voilà, tous ces termes-là, les institutionnels en ont plein la bouche finalement. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail aussi, c'est que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. Et que donc, par exemple, il n'était pas évident de savoir où on pouvait mettre la frontière entre pratique amateur et pratique professionnelle. Moi, c'est en tout cas une division que je récuse, mais en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue et anthropologue, hein, je suis pas chargé de mettre en place des politiques publiques. Mais en tout cas, moi, à mon niveau de chercheur, je peux pas me contenter d'utiliser ces deux grandes catégories, amateurs et professionnels, qui sont pour moi avant tout des catégories institutionnelles, des catégories, pour dire un mot un petit peu agressif, disons des catégories bureaucratiques, hein, si je puis dire, dont le politique a probablement besoin pour travailler, hein, c'est pas le problème. Simplement, moi, j'utilise pas ces outils-là, je suis un scientifique, je suis pas un politique, et donc j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin que ça, et justement de questionner ces catégories qui semblent si évidentes, qui semblent... Voilà, c'est un peu comme le coup des styles musicaux, si vous voulez, bien souvent... Voilà, vous avez le jazz d'un côté, le rock, et on suppose que tout ça fait des ensembles cohérents avec des musiciens de jazz qui font du jazz, des musiciens de rock qui font du rock. Bon, ben là aussi, j'ai essayé de montrer que ça, c'est bien souvent un point de vue externe, un point de vue extérieur. Quand on est à l'intérieur de ce monde social, les choses sont beaucoup plus poreuses que ça. Il n'y a pas d'un côté les jazzmen, de l'autre côté les rockers. C'est pas vrai du tout, quoi.
T'as fait. Et alors, ça veut dire quoi que la sphère bureaucratique ne prend alors pas en considération les aspects scientifiques comme vous menez, que pour elle-même pouvoir avoir une meilleure compréhension en fait de la réalité de terrain.
Ouais, ce serait probablement un peu exagéré que de le dire comme ça. La sphère bureaucratique, comme vous dites, encore une fois, je pense qu'elle a besoin de repères relativement simples pour mener la politique.
Pour pas trop réfléchir.
Ouais, mais aussi pour être efficace, enfin pour essayer d'être efficace, pour pas se perdre dans des méandres, dans des détails. Elle a besoin de construire des catégories, hein, pour justement distinguer qui peut avoir droit à ci, qui n'a pas droit à ça, etc. Enfin, ça fait partie des nécessités de l'exercice du pouvoir, du gouvernement et de la politique, tout simplement. Moi, c'est facile pour un scientifique qui ne met jamais les mains là-dedans d'appeler à l'attention, à la complexité, etc. Oui, bien sûr, c'est mon job, mais voilà, je ne vais pas forcément taper sur les politiques parce que je sais quelles sont leurs contraintes aussi. Donc, je crois que chacun est dans son rôle aussi. Maintenant, c'est vrai que, en tout cas en France, les travaux que j'ai pu mener, les publications que j'ai pu faire, n'ont pas forcément retrouvé le meilleur écho dans les sphères bureaucratiques ou de la politique publique. Enfin, j'ai pas eu de critique particulière, mais enfin, on m'a pas spécialement appelé pour donner des conseils ou pour faire de la formation au ministère de la Culture ou des choses comme ça, parce que bon, voilà, ils ont leur catégorie et je pense qu'ils essaient de travailler avec. Ils sont pas forcément prêts à les remettre en cause immédiatement. Puis j'ai pas forcément de solution à proposer non plus, quoi. Encore une fois, je suis pas ni un politique, ni même un politiste.
Je comprends tout à fait. Et par rapport, en tout cas, ici en Belgique, et on va faire une émission bientôt là-dessus, sur l'accompagnement de groupes, donc des structures ici qui accompagnent en fait des groupes vers la professionnalisation. Ça, j'ai pas trop vu ça dans le bouquin.
Non, effectivement, parce que je connaissais pas. Alors vous parlez de Smart peut-être.
Par exemple, on a court-circuit aussi ici.
D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion de publier 2-3 fois dans des ouvrages collectifs de Smart. Et puis,
On va les recevoir aussi.
J'étais allé passer 2 jours avec eux aussi il y a quelques années pour leur parler un peu d'une approche socio-anthropologique de la culture, etc. Donc, c'est vrai que ce type de structure, c'est quelque chose d'assez original qui n'existait pas en France au moment où moi j'ai travaillé. Je sais que maintenant Smart a des antennes en France aussi, ce qui est une très bonne chose. Mais voilà, donc les choses sont en train d'évoluer. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, effectivement, qu'il y ait des... Vous savez, les acteurs intermédiaires, ils ont un poids considérable hein, dans ces milieux-là. Et justement, le fait d'avoir des acteurs intermédiaires associatifs relativement importants, qui soient pas simplement des agents, des impresarios qui travaillent un peu de manière individuelle comme ça, mais d'avoir de véritables structures d'accompagnement pour ce qui est de l'administration et de l'emploi dans les arts et le spectacle vivant en particulier, je trouve que c'est une très bonne chose, mais pour autant que je sache, c'est quelque chose qui n'existait pas au moment où moi j'ai fait mon terrain, hein, c'est-à-dire, encore une fois, c'était entre 97 et 2004-2005.
Donc ça fait partie aussi des évolutions du secteur.
Ouais, effectivement. Là, pour le coup, des évolutions qui me semblent tout à fait positives, tout à fait intéressantes.
Et alors, ça doit peut-être aujourd'hui changer pas mal de choses, alors dans les pratiques ou dans le fait de durer ou plutôt de jouer. Je ne sais pas trop à quelle étape, par exemple, si on se fie au bouquin, les choses pourraient alors un peu changer.
Oui, alors, effectivement, on peut espérer que ça change un peu les choses, mais je suis pas sûr que ça les change fondamentalement parce qu'il reste quand même des données structurelles qui ont pas tellement varié hein. La pauvreté du secteur, la difficulté alors certains employeurs sont pas pauvres du tout, mais enfin ils sont assez rares hein, les grandes scènes, les scènes nationales en France ou les grandes salles de spectacle, les grands festivals. Mais à part ça, les lieux d'exercice du métier un peu au quotidien des musiciens ordinaires, à savoir les bars musicaux, ce genre de lieux, sont rarement des lieux très 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 rentables et ont rarement de quoi donner des salaires mirobolants aux gens qui viennent jouer. Donc l'accompagnement par des structures intermédiaires comme ça, je pense que c'est très bien parce que ça doit permettre aux musiciens... les musiciens alors en l'occurrence, mais ça peut être le cas pour des comédiens ou des danseurs évidemment, mais ça doit permettre aux musiciens d'avoir une meilleure réflexion sur leur propre situation d'emploi, de voir jusqu'à quel point ils peuvent accepter tel ou tel compromis, jusqu'à quel point ils peuvent réclamer tel ou tel droits sociaux, etc. Voilà, de ne pas trop se faire avoir, si je puis dire. Quoi.
De mieux connaître ses droits aussi.
Voilà, mieux connaître leurs droits, mieux les faire valoir, donc ça c'est déjà quelque chose de tout à fait important. Hein. Voilà, maintenant, quant aux situations d'emploi, le fait de jouer très souvent, très régulièrement, en étant très bien payé, ça va rester quelque chose d'assez rare, hein, malheureusement. Donc, et ça, les acteurs intermédiaires vont pouvoir essayer, encore une fois, de faire en sorte que les musiciens soient un peu plus conscients de leurs droits, de leur situation, mais ils ne vont pas pouvoir changer les réalités de base, hein, les réalités structurelles de l'économie du secteur.
Bah oui, c'est vrai que tout à l'heure on parlait de YouTube et qu'à l'époque de l'écriture du bouquin et de la thèse, on n'avait pas ces outils, mais bon, on parle de YouTube, on peut parler de plein d'autres choses, hein, des Bandcamp, comment ça s'appelle encore
du crowdfunding, mais ça change pas énormément. Pour l'instant, on s'aperçoit que les nouveaux modes de production de type crowdfunding ou les nouveaux modes de prospection en ligne, alors, les modes de prospection en ligne, le fait qu'on n'envoie plus une maquette à un directeur de festival, mais qu'on lui envoie un lien vers une vidéo YouTube ou Vimeo ou je ne sais quoi. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, ça s'est tellement généralisé que finalement, s'il y a un conseil à donner aux jeunes groupes, c'est plutôt de presser un CD et de l'envoyer. Parce que c'est ça qui va les démarquer maintenant.
Sort du lot, ouais.
Personne ne le fait ça. Alors qu'il y a 15 ans, les programmateurs étaient ensevelis sous une cinquantaine de CD qu'ils recevaient quotidiennement. Aujourd'hui, ça se fait plus. Tout le monde envoie un lien vers un site internet. Et du coup, c'est devenu extrêmement banal. Donc, si vous envoyez une jolie pochette de CD avec une belle galette dedans, il y a plus de chances que vous vous fassiez remarquer.
Peut-être même une cassette.
Une cassette, voire un vinyle ou un truc comme ça. Ouais. Effectivement. Donc, c'est un peu un effet contraire. Enfin, en tout cas, là, il n'y a pas de changement radical, si on peut dire. Après, pour ce qui est du financement de la création, je pense notamment au crowdfunding, bon, on s'aperçoit que ça représente quand même une part tout à fait infime de la production. On s'aperçoit ensuite, si on regarde un petit peu dans le détail, que il y a beaucoup de belles histoires qui sont souvent un petit peu trop belles, hein, des gens qui finalement pour atteindre leur but, vous savez comment ça marche le crowdfunding, pour atteindre leur but, vont eux-mêmes mettre des sous, ou vont tanner toute leur famille en leur promettant qu'ils les rembourseront. On a des espèces de manipulations très artisanales comme ça pour dire ah non, je suis pas un loser, j'ai réussi à atteindre mon but sur mon site de crowdfunding, mais en fait la plupart du temps c'est pas vrai, quoi.
Alors que ça pourrait être de l'autofinancement.
Exactement. C'est quelque chose d'assez caractéristique aussi, hein, de ces nouvelles interfaces, où on rend public absolument tout ce qu'on fait, où à chaque fois, évidemment, on doit rendre public non seulement ce qu'on fait, mais ce qu'on fait avec succès. Donc, bien sûr, sa campagne de crowdfunding, il faut autant que possible montrer qu'elle a marché, qu'on a réussi, qu'on n'est pas un loser, etc. Et donc, ça va amener les gens à tricher. Par rapport au système de base, effectivement. Après, pour ce qui est des campagnes de crowdfunding non trafiquées, si on peut dire, et celles qui fonctionnent, finalement, on retombe exactement dans le même type de mécanisme que sans Internet, à savoir que ceux qui ont une capacité à se présenter, à construire un discours, à activer des réseaux, vont beaucoup mieux y arriver que les autres. Enfin, vont y arriver et les autres ne vont pas y arriver. Mais ça, c'était un petit peu la même chose avant le crowdfunding sur Internet. C'est les mêmes qui pouvaient aller monter des dossiers de subvention, voir des subventionneurs du ministère de la Culture ou des gens comme ça, sont ceux qui aujourd'hui peuvent réussir leur entreprise de crowdfunding. Et puis ceux qui ne savaient pas monter un dossier de sub, ceux qui ne savaient pas parler de ce qu'ils faisaient, qui ne savaient pas vendre ce qu'ils faisaient, ne savent toujours pas le faire. Et aujourd'hui n'arrivent pas à monter un dossier de crowdfunding, ou s'ils le font, ça marche pas vraiment. Et hier, c'est des gens qui n'avaient pas les subventions, qui étaient refusés, ou qui tout simplement ne pensaient même pas à déposer des dossiers.
Il existe des coachs maintenant.
Oui, certainement. bien sûr, il y a des coachs pour tout, de toute façon. Donc il doit bien y avoir des coachs pour ça, certainement. De toute façon, dès qu'il y a un peu d'argent à se faire, les coachs sont prêts.
Et pour terminer avec ces nouvelles technologies, j'aimerais aussi poser une question quant à l'enregistrement, puisque avant, peut-être, on était obligé de passer par un studio, ce qui coûte très cher en plus. Aujourd'hui, on arrive à avoir des espèces de petits home studios, à s'enregistrer soi-même. On a des enregistreurs portables très simples d'utilisation, beaucoup plus démocratiques aussi au niveau du prix. Est-ce que ça change aussi un peu la donne ?
Je suis pas sûr non plus que ça change énormément. Alors tout dépend de la musique qu'on fait, quoi. Si on fait un truc un peu trendy à base de percussions années 80, c'est-à-dire boîte à rythme électronique ou des choses comme ça, un peu lofi, pas très bien produit, ouais, pourquoi pas. Là, on peut facilement sortir quelque chose. Mais on pouvait déjà sortir quelque chose dans les années 80, dans ces conditions-là, avec un magnéto à cassette, finalement.
Tout à fait, beaucoup longtemps.
Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, si on veut avoir un gros son, un beau son, avec pas mal d'instruments acoustiques, si on veut bien reprendre une batterie, par exemple, ne serait-ce que ça, ben, le problème n'a pas tellement changé. Il faut de très bons micros.
Mm-hmm.
Et des très bons micros, ça coûte toujours très cher.
Et oui.
C'est ça le truc de base, hein, pour l'enregistrement, c'est avoir un bon parc de micros, et après que vous ayez derrière un vieil enregistreur 8 pistes à bande comme il y a 30 ans ou un multipiste numérique tout moderne, ça change pas grand chose. Il faut avant tout avoir le parc de micros, la compétence de preneur de son pour placer ses micros, et voilà. Donc oui, les évolutions technologiques ont pas mal démocratisé certaines pratiques. Mais ce qui sort des home studios, ce qui sort sur les maquettes, c'est quand même toujours très largement dépendant, d'une part, de la qualité technique du matériel de base pour la prise de son, à savoir les micros, et d'autre part, des compétences techniques des gens qui les utilisent.
Mmh. En fait, ça continuera toujours comme ça, hein.
Je sais, oui, probablement, très probablement. Non, mais il y a souvent... Ça, c'est quelque chose d'assez général aussi, bien au-delà du cas de la musique, hein. Les nouvelles technologies, comme on disait il y a 15 ans... Voilà, c'est quelque chose qui a tout à fait nouveau, tout à fait impressionnant, mais il faut pas non plus leur imputer plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Je veux dire, la nouvelle économie, non, c'est pas vraiment une nouvelle économie.
C'est garder la compétence humaine derrière.
Oui, et puis on est toujours dans une économie capitaliste, de profit, etc. Et le succès dans l'économie digitale, fonctionne finalement selon des lois qui sont pas si éloignées de ce que ça a pu être dans l'économie traditionnelle. Hein. C'est pas une nouveauté absolue, c'est pas une révolution. Et donc on peut effectivement nous parler de crowdfunding ou de nouvelles manières de faire de la musique, etc. Finalement, ça n'a pas énormément fait changer les choses pour l'instant. De la même manière qu'on peut s'emballer à parler de net art, de création numérique, etc.,
mm-hmm.
ça touche qu'une petite minorité des artistes. De la même manière qu'on peut parler de transhumanité ou de choses comme ça, ça touche qu'une infime minorité des individus. Donc voilà, ces révolutions Internet, révolutions numériques, etc., ce ne sont pas encore, je pense, de véritables révolutions. Les gens qui travaillent dessus sont assez fascinés par tout ça, mais bon, ça change à la marge pour l'instant, quoi. Ce qui a surtout changé, c'est que les maisons de disques ne seront plus d'argent en vendant d'albums.
Tout à fait.
Alors oui. Ça change, et on en entend beaucoup parler, parce que c'est des gens qui ont de la parole dans les médias. Mais pour le musicien lambda qui n'a jamais vendu d'album, que ce soit dans les années 80 ou dans les années 2010, ça ne change rien. Les musiciens ordinaires, ils vendent pas d'albums. Ils gagnent leur vie en jouant dans les bars avant tout.
J'ai un son bizarre, hop, ça y est, voilà. Mais oui, c'est aussi une réalité de terrain, encore une fois, où les grandes industries musicales cherchent encore à vendre via leur ancien support, mais on n'est plus là-dedans non plus.
Ben oui.
Ce sera le mot de la fin ?
Ah ben oui. Ça va pour vous ?
Oui, merci beaucoup, ma belle, c'était très chouette.